Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, sur Sud Radio, oui, j'ai répété deux fois sur Sud Radio. Je fais comme Éric Zemmour qui dit trois fois hélas. Pour commenter l'actualité aujourd'hui, Dominique de Montvallon, bonjour.
Bonjour.
Journaliste politique, Mickaël Darmon.
Bonjour.
Journaliste politique également, vous avez publié Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise. Vous allez faire le tome 2, non, bientôt?
Non.
Aux éditions de l'Archipel, non, mais à la fin de ce quinquennat. Kevin Bossieu est professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Eduardo Rian-Sipel,
bonjour.
Bonjour. Ravi de vous revoir, Eduardo. Porte-parole de Territoire de Progrès et ancien député PS. Merci d'être avec nous. On va évidemment parler de la suite de du résultat de l'élection présidentielle. Les Républicains sont le point d'exploser. Beaucoup de Français souhaitent une cohabitation. Quid de cette cohabitation qui risque d'être impossible? Et puis Emmanuel Macron, une nouvelle ère, une nouvelle méthode, mais laquelle? Vos coups de cœur, vos coups de gueule, Mickaël, c'est un coup de gueule. On commence avec vous.
Oui, contre le DJ du Champ de Mars, pas lui en tant que tel, je ne le connais pas et ouais. J'ai aucun problème vis-à-vis de cette personne, mais ce qu'il a représenté et le rôle qu'il a joué dans ce rassemblement un peu en carton-pâte, et cette joie très fabriquée, très artificielle, organisée par les partisans d'Emmanuel Macron pour cette soirée, où au fond, les Français se sont plutôt adonnés à leur passion triste, c'est-à-dire la résignation de cette soirée électorale, puisque c'était effectivement une victoire sans éclat.
Oui, et le DJ, il symbolise quoi pour vous alors?
Il symbolise une forme, je dirais, d'inconscience collective, de fausse joie, et puis surtout mettant, alors que c'était quand même une soirée où on a quand même vu des résultats d'une France éclatée, morcelée, fracturée, avec une forme quand même de gravité, mais du côté du Champ de Mars, eh bien, on dansait en attendant le champion de la soirée.
Dominique n'est pas d'accord, Dominique de Montvallon.
Pour ce que j'en ai vu, j'y étais pas, je crois que... Il n'y a pas beaucoup de danse, il y avait une atmosphère...
Et pas beaucoup de monde.
Terne et lugubre.
Pas énormément de monde, voilà.
Surtout. Terne et lugubre et...
Mais c'est ça, c'est que le DJ a tenté qu'il avait été,
Avait été imaginé avant que les résultats seraient tels que ce serait une bouffée d'enthousiasme, mais bon...
Ouais. Mais c'était à l'image
de la France d'aujourd'hui.
Les meetings se trouvent autour de Macron qui était très très peu... avec très peu d'affluence, très peu de monde dans chacun des meetings. À Marseille, c'était considéré comme un ratage. À Figeac, c'était considéré comme un problème de mobilisation. En tout cas, c'est pas mon commentaire personnel.
Il y avait plus de monde dans les urnes pour Macron que dans les meetings, c'est clair.
De la part de ce qu'on m'a raconté à l'intérieur du QG.
Alors, c'est pas mon coup de cœur.
Mais pas de commentaire sur la soirée.
J'y étais. C'était une belle soirée. Non, on était contents. Et personne va nous enlever cette joie qu'on nous partageons avec beaucoup de Français. Et ce qui n'empêche pas l'humilité et la responsabilité qu'on ressent aussi au premier chef, le chef de l'État, justement. Pourquoi? Parce que nous étions heureux d'abord de voir Emmanuel Macron gagner. Nous le soutenions. Et nous étions aussi heureux de barrer la route à l'extrême droite et de voir le peuple français. Il y avait une fierté nationale. Excusez-moi. Il y avait une fierté nationale à voir un résultat aussi net, même s'il n'est pas aussi net que la dernière
aussi
fois,
net,
et pas aussi net que celui de Jacques Chirac. On était parti à 51, 52. Tout le monde nous jouait le film, oulala, elle peut même gagner. Moi, j'ai vu un peuple français qui a eu la conscience suffisamment large, près de 60% des Français qui ont barré la route, et je pense que c'est très très dur pour le camp nationaliste de l'extrême droite nationaliste française, qui voit très bien que c'est très dur, que les Français ne laissent pas passer. Donc la joie, elle était parce que Emmanuel Macron avait gagné, que l'extrême droite avait vu la route barrée de manière très nette, alors que c'était pas le schéma qu'on nous présentait au début.
Mais
humilité et responsabilité, parce qu'on sait ce qui nous attend.
Kevin.
Je crois qu'il faut sortir des éléments de langage. Moi, j'ai plein d'amis qui
Je vous parle avec le cœur et la raison, c'est pas des
soirée,
c'est du langage tout court.
Ils se sont
fait chier. Mais grandeur nature, il n'y a strictement rien eu. Au bout d'une heure, ils sont partis, en fait. Tout le monde était terne. Enfin, il n'y avait pas d'enthousiasme. Il a gagné, certes. Et sur l'extrême droite, moi, je suis désolé. Lorsque Le Pen, Jean-Marie Le Pen, est arrivé au second tour, il y a 20 millions d'électeurs qui séparaient Jean-Marie Le Pen de l'autre candidat. En 2017, il y avait 10 millions d'électeurs qui séparaient Macron de Marine Le Pen. Aujourd'hui, il y en a 5,5 millions. Donc, quand on fait de son quinquennat la volonté de lutter contre l'extrême droite, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment réussi. Bon. Et là, va se poser quand même une question qui est quand même grandiloquente, c'est que si Emmanuel Macron ne réussit pas son quinquennat, après, qu'est-ce que l'on va avoir? Parce qu'il n'y a plus de droite républicaine, il n'y a plus de gauche républicaine. On va avoir soit Mélenchon, soit Le Pen. Mais ça fait un petit peu peur quand même.
En tout cas, un constat, le seul qui a pu tenir face à l'extrême droite et qui a tenu la barre de la République et du pays s'appelle Emmanuel Macron. C'est pas sa faute si les autres n'ont pas tenu. Lui, il a tenu à 27,8, c'est-à-dire plus que son score de la dernière fois et avec plus de voix. Objectivement, Macron est celui qui a tenu le pays face à l'extrême droite, c'est objectif.
Il a fait monter un score inégalé.
Est-ce que c'est lui qui l'a fait monter? Il est responsable de tout, je veux bien.
Allez, on va marquer une petite pause et on va continuer notre tour de table qui est très politique ce matin. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio avec Dominique de Montvalon, journaliste politique, Édouard Dorian-Sipel, porte-parole de Territoire de Progrès, ancien député PS, Mickaël Darmon, journaliste politique. Votre dernier livre, Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise, est paru aux éditions L'Archipel. Et Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. On va parler sur les Républicains qui se réunissent, des bureaux politiques à tout va. Est-ce qu'ils sont sur le point d'exploser? Une cohabitation possible? Possible, impossible, on en parle également avec vous. Et puis, quelle est cette nouvelle ère que promet Emmanuel Macron? Tous ces sujets développés avec vous. On continue les coups de cœur, les coups de gueule. Édouard Dorian-Sipel, c'est un coup de cœur?
Alors, j'ai un coup de cœur pour tous les élus, tous les maires et tous les élus qui les accompagnent, tous les assesseurs, tous les membres de partis politiques et tous les bénévoles qui ont tenu les bureaux de vote lors de ces élections présidentielles le 10 avril. Et le 24 avril, parce que sans eux, sans ce dispositif humain, eh bien les élections n'auraient pas pu être tenues en France. Et c'est une grande tradition, celle des bureaux de vote, ouais, où l'on dépouille. Et cela suppose que les mairies puissent faire leur travail, ouais, que les élus fassent leur travail, c'est une obligation d'ailleurs par la loi, que les membres de partis politiques aussi fassent leur travail, en mettant à disposition leurs militants pour tenir les bureaux de vote, et que les bénévoles, les citoyens aussi, peuvent le faire. Je trouve que c'est très beau, c'est la beauté de notre démocratie française, et je veux saluer vraiment avec ce coup de cœur tous ces élus, toutes ces femmes qui ont tenu les bureaux de vote pour permettre la démocratie française lors de l'élection.
Ça va permettre de faire un coup de gueule ou un coup de cœur pour le Conseil constitutionnel qui a été saisi après la mise en scène pathétique de Jean Lassalle qui s'est abstenu de voter. J'ai trouvé ce geste lamentable et je trouve que ce n'est pas digne d'un homme politique que de faire cela. Donc bravo au Conseil constitutionnel, puisque c'est interdit de faire cela. Donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé les uns et les autres, mais je trouve que ce n'est pas bien vouloir être toujours dans la com, dans l'affichage, exister dans les médias.
Termine mal sa campagne.
Il y a un moment où il faut que ça se termine. Alors, un coup de gueule, Dominique?
Oui, un coup de gueule, oui, c'est ce que j'ai choisi. Oui. Un coup de gueule, pas méchant, mais contre Lionel Jospin, je veux dire, il intervient aujourd'hui pour faire la leçon.
Non, c'est pas bien, c'est pas gentil.
Pardon?
J'ai dit qui? Non, non, c'est moi qui ai dit qui, contre qui. J'ironisais, pardon.
Non, non, mais...
Allez-y.
Vous avez droit
à toutes
mes indulgences, si c'est le mot qui s'impose. Édouard Dorian-Sipel, il est dans un registre plus politique, avec son pench, et donc ma réaction serait différente.
Mais je n'ai rien dit là-dessus.
Non, il a rien dit.
Je suis totalement innocent.
Il a fait des mimiques.
Non, on arrête.
C'est ma faute. Non, je veux dire, j'ai entendu que Lionel Jospin, avec un air sérieux, un peu pénétré, etc., expliquait que Macron avait mis le feu au lac, avait mis le feu à tout ça, etc. Et je me souviens, ça va être très court, mais je me souviens, comme journaliste politique, on n'est pas le seul en piste, mais je m'en souviens très très bien, de ce qui s'était passé lorsque Jospin a vu, le candidat Lionel Jospin a vu la foudre lui tomber sur la tête. Et jamais il n'avait imaginé une seconde qui pouvait ne pas être au second tour de la présidentielle. J'ajoute une deuxième chose, personne, étant donné la... La personnalité, on s'adresse pas à Jospin comme ça. Hein. Personne de ceux qui l'entouraient, de ses plus proches, n'osait lui dire que le cataclysme était au rendez-vous. Et il est arrivé jusqu'à son QG de campagne à l'époque. Il a monté, il a traversé. D'ailleurs, ils n'étaient pas tous au courant à l'époque. À la minute précise, il est monté. Et il y en a un qui s'est dévoué. Et la réaction de Jospin, qui a dit qu'il abandonnait la politique 5 minutes plus tard, c'est une réaction, pas de modestie, c'est de la quintessence de l'orgueil. Ben oui, ça lui est arrivé.
Et alors aujourd'hui...
Et ce que je veux dire par là, c'est que il serait pas le sauveur de la gauche, etc. Mais aussi, dans les malheurs de la gauche, qui se désintègrent sous nos yeux, il y a aussi le fait que ceux qui avaient de la gueule, qui avaient quelque chose à dire, qui avaient aussi... c'est autre chose que Montebourg, hein, bon. Eh ben, vous voyez, prenez le cas de Jospin... Ils sont partis en essayant de se donner une posture avec le recul.
Et le fait qu'ils reviennent, vous...
Oh, il revient pas.
Non, mais qu'ils reviennent donner son avis.
Je vais vous dire, il revient pas. Il est dans le registre très commun, qui est le mien d'ailleurs. Mais c'est vous dire qu'il est descendu bas de commentateur d'une situation qu'il ne maîtrise pas. C'est triste. On aurait pu attendre autre chose de lui.
Moi, je ne comprends pas que le PS devienne le parti soumis aux insoumis. Hein, on a l'impression que PS, ça veut dire parti soumis aux insoumis. Ils viennent de voter, la direction nationale du parti a voté une volonté d'accord et avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Honnêtement, c'est un vrai suicide. C'est abandonner le socialisme humaniste, le socialisme démocratique, la gauche démocratique. Et on sait très bien quel est le but de Jean-Luc Mélenchon. C'est de ravaler et d'avaler complètement toute la gauche, à commencer par le Parti Socialiste en priorité. Et là, mes anciens camarades du PS décident, dans une espèce de d'illusion ou de mirage total, d'aller dans la gueule du loup.
Panique,
c'est triste. Ouais, ça explique que beaucoup d'électeurs socialistes et sociodémocrates, comme moi, aient fait le choix d'Emmanuel Macron dès le premier tour. Parce que la social-démocratie que représentait jadis le Parti Socialiste est en très grande majorité représentée aujourd'hui par le président de la République.
Michael,
et notamment Territoire de Progrès, mon parti, avec Olivier Dussopt, bien sûr.
Oui, je pense que c'est en fait un peu vain de pleurer sur un monde qui est en train de sombrer. Je pense que ces 5 années qui viennent de s'écouler et cette campagne, cette élection présidentielle tourne définitivement la page sur une vie politique en France qui n'en reviendra plus. Nous avons maintenant une tripartition de la vie politique. Et même,
je précise que mon propos n'était pas nostalgique.
Je parle mais en général.
On est d'accord.
Mais bien évidemment, on est aujourd'hui sur un nouveau paysage politique. Jean-Luc Mélenchon, en fait, la décomposition a joué chez tout le monde pendant 5 ans. Jean-Luc Mélenchon, au fond, tire les marrons du feu d'une gauche socialiste qui a progressivement abandonné le débat, en tout cas le combat pour l'égalité sociale au profit de la défense des communautés et des identités, qui a abandonné le monde prolétaire. Ça a commencé quand même il y a quelques années par la fameuse étude de Terra Nova qui a déclaré et décrété que le PS était le parti des classes moyennes. Les prolétaires sont restés dans la nature. Enfin, ce sont des processus longs, lourds, qui trouvent aujourd'hui leur cristallisation dans un vote qui montre bien qu'aujourd'hui c'est Jean-Luc Mélenchon qui récupère l'ensemble de la pensée de gauche, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un fait. C'est Marine Le Pen qui cristallise le camp national souverainiste, c'est un fait. Et c'est Emmanuel Macron qui crée, avec ce courant central, et on verra quelle configuration vraiment il va lui donner sur le plan du cadre, eh bien, qui crée peut-être le premier parti démocrate à la française. Et de ce point de vue-là, c'est un projet qui l'a de depuis le début de son premier quinquennat. Il avait exprimé en disant, à la fin, il n'y aura que Le Pen et moi. C'est exactement ce qui s'est passé. Il met les extrêmes en situation d'alternance. Donc c'est un risque politique qui, pour l'instant, lui réussit, il faut dire. Mais c'est un vrai risque politique parce que n'oublions pas, même si il n'y a pas toujours des comparaisons à faire avec l'autre côté de l'Atlantique, mais Donald Trump est venu après deux mandats d'Obama. Donc maintenant que le président ne se représente plus, la porte est ouverte. Et ce à quoi on va assister pendant les cinq prochaines années est fondamental.
Kevin, votre coup de gueule, c'est un peu en complément sur ces classes populaires qui ont voté, Marine Le Pen aussi, et nous on a eu beaucoup d'auditeurs hier qui nous ont appelés pour nous dire j'ai voté Mélenchon au premier tour, j'ai voté Marine Le Pen au second tour.
C'est un coup de gueule à l'encontre du mépris social qui a jailli à la suite de la publication d'une vidéo par un journaliste sur les réseaux sociaux de ces ouvrières d'Edin Beaumont qui ont été, c'est vrai, vulgaires, qui ont été insultantes vis-à-vis du chef de l'État quand elles ont découvert le résultat. Moi, le mépris social, le torrent de haine qui a jailli à la suite de cette publication, je l'ai trouvé juste honteux. Certes, c'était vulgaire, certes, c'était insultant, mais c'était le signe aussi d'un désespoir social. Le fait que ces gens, finalement, ont l'impression qu'on ne les respecte plus, qu'ils n'existent plus, qu'il n'y a plus, finalement, de dignité. Et moi, j'ai trouvé tout aussi vulgaire, par exemple une Charlotte Gainsbourg qui ose donner des leçons de républicanisme ou de patriotisme alors qu'elle ne paye même plus ses impôts en France et qu'elle vit à l'étranger.
Elle est revenue, je crois.
Elle est revenue dessus, mais enfin, il y a eu toutes ces tribunes, etc., de ces journalistes. Et moi, ce
Mais elle est revenue des États-Unis,
elle est revenue des États-Unis. Oui. Bah, super. Super pour la France. Non, mais moi, ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que, en fait, quand on diabolise le Rassemblement National, derrière, on diabolise les catégories populaires. Et quand on les traite pas de racistes, quand on les traite pas de fascistes, finalement, on nous raconte qu'ils sont trop bêtes pour pouvoir comprendre. Donc, on les exclut du champ démocratique. Et c'est ça, en effet, qui est scandaleux et qui crée beaucoup de troubles. Et ce qui me tue, c'est que le vote de dimanche dernier, c'est un vote social. Quand vous prenez le niveau de revenu, ceux qui gagnent plus de 2500 euros par mois n'ont voté qu'à 21-22% pour Marine Le Pen, alors que ceux qui gagnent moins de 900 euros par mois, ont largement voté pour Marine Le Pen. Donc voilà, moi, c'est ça qui me choque. Et puis, je vois le cynisme des bourgeois, etc., mais ces bourgeois commencent à être dominés par leur propre domination. C'est-à-dire qu'on peut rire de l'insécurité dont souffrent les milieux populaires, on peut rire du fait qu'ils n'arrivent plus à terminer les fins de mois, mais à la fin, aujourd'hui, ils sont obligés, ces gens, de s'enfermer dans des gated cities, de se protéger. Ils sont obligés, finalement, de se calfeutrer dans leur entre-soi bourgeois, parce que la société est devenue difficilement vivable. Et à un moment donné, ça va péter parce qu'à force de mépriser, à force d'insulter tous ces gens-là, mais ils vont exploser. Donc je crois que le quinquennat d'Emmanuel Macron sera bon s'il se réconcilie avec ses catégories populaires, s'il arrête avec ses petites phrases et qu'enfin, il redonne leur dignité à ces ouvriers qui font, au même titre que les patrons, fonctionner la France.
L'une était commerçante de ces femmes, mais c'est des petits commerçants. Eduardo Riancipel, vous voulez réagir ?
J'ai vu, comme tout le monde, ces images. Et je dois dire que j'étais comme beaucoup triste de voir ça et en même temps avec une certaine empathie aussi. Parce que derrière cette colère, cette violence des mots, bien sûr, il faut condamner ce qu'elles disent, tout ça, très bien. Mais je regarde ça avec un peu de recul parce que derrière cette violence verbale, cette colère avec les mots violents que ces deux femmes ont employés, tout le monde les a vus, pas besoin de les répéter, j'ai le sentiment qu'il y a quand même une demande, si ce n'est d'amour, au moins de considération cachée. Et c'est ça que j'entends, surtout. Quand quelqu'un est très en colère comme ça.
Vous trouvez que le président de la République les a considérés
je pense que là, il y a en tout cas une incompréhension. Je veux dire, tout le monde est là sur les résultats de l'élection, mais en fait, le résultat de l'élection confirme à peu près les éléments qu'on connaissait de la société française d'avant, qui non seulement avait eu les gilets jaunes, mais en plus, on a eu la pandémie pour tous, hein, pardon de le rappeler, avec la dureté de la vie qui s'en est suivie, et en même temps, un président de la République qui a été très protecteur, nationalisation des salaires, etc. En tout cas, sur cette question-là, quand il y a quelque chose comme une colère, une violence comme ça, il faut entendre la demande de considération. Et c'est précisément à cela que le président de la République veut et doit répondre.
C'est le défi. Hein, déjà qu'il est là,
oui, mais il a été réélu, cher Valérie. Oui. Donc il n'a pas quand même été exclu. Il n'y a pas eu de dégagisme. Hein. Il a été majoritaire au plan relatif au premier tour et très large second avec des gens qui, d'ailleurs, ne votaient pas pour son projet. Alors, ce que je dis, c'est qu'il y a un devoir à prendre en considération pour recoudre le pays et d'essayer effectivement au moins de, si c'était de récupérer par le vote ces personnes, au moins de montrer qu'on travaille pour tous les Français.
Ce que vous avez dit est très juste, c'est-à-dire que beaucoup d'électeurs qui se sont déplacés n'ont pas voté pour son projet, ce qui relativise considérablement sa victoire.
Comme souvent dans un second tour, même quand on gagne à 52.
Non, mais ça relativise considérablement sa victoire.
Tout le monde n'a pas voté pour son projet non plus.
Non, mais là, en l'occurrence, c'était face à l'extrême droite.
C'est la France.
Et face à Marine Le Pen, qui, en fait, capitalise et rassemble les électeurs de cette France en colère, de cette France qui se sent déconsidérée. Il faut bien voir qu'il y a quand même une similitude entre la carte du RSA et la carte du vote Marine Le Pen.
Bien sûr.
C'est déjà très inquiétant. Et la deuxième chose vraiment sur laquelle il faut vraiment se pencher, et qui relativise quand même tous les propos sur une Marine Le Pen d'extrême droite, c'est le résultat d'outre-mer. Quand même, il y a eu une capacité par Marine Le Pen de transformer le vote de Mélenchon en vote pour elle sur un ensemble de territoires auprès donc de populations qui en général sont plutôt la première cible des attaques racistes, et donc de ce point de vue là ça pose une question, une énorme question, et qui relativise considérablement les résultats.
Sur
cette élection présidentielle n'a rien réglé. Elle n'a réglé aucun des problèmes des
Mais
Français.
Quand vous dites extrême droite, vous savez que ça choque beaucoup de nos auditeurs, parce qu'il y a quelque chose d'assez méprisant, d'assez connoté.
Oui, en plus, je pense que c'est injuste historiquement.
Mais je vais expliquer, je suis content que vous me donniez la parole.
Non,
c'est juste, relisez René Raymond, le camp nationaliste, le camp nationaliste, il appartient à l'extrême droite, il n'est pas de centre droit, il n'est pas gaullien non plus.
L'extrême droite pose la violence.
Voilà.
On va marquer une petite pause.
C'est extrême droite, vraiment au sens qualitatif.
Vous allez nous expliquer, mais c'est vrai que les mots choquent certains de nos auditeurs. On revient dans un instant.
Raciste, loin de là.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, avec Dominique de Montvalon, Édouard Riancipel, Michaël Darmon et Kevin Bossuet. Petite information pour vous, Michaël, qui était très, très préoccupé des festivités. Figurez-vous qu'Emmanuel Macron voulait faire scintiller la Tour Eiffel et Anne Hidalgo a dit non.
Encore 10 ans, 5 ans après.
Voilà, nos confrères du Figaro qui nous apprennent ça ce matin.
Mais elle n'a pas pu résister au fait qu'il y a 5 ans, elle avait déjà refusé l'accès au Champ de Mars. Mais cette fois-ci, elle n'a simplement pu refuser que l'élimination de la Tour Eiffel.
Et qu'elle en parle surtout. Peut-être que sans le savoir, elle a aidé Emmanuel Macron aussi avec ça.
Peut-être. Dominique, vous vouliez juste redire un mot sur le coup de gueule de Kevin Bossuet.
En deux phrases, revenir sur la vidéo qui est à l'origine de notre de l'échange qui a eu lieu, la vidéo à Hénin Beaumont. Je trouve, à titre personnel, que c'est la vidéo la plus forte que j'ai vue de toute la campagne électorale. Et je suis d'avis qu'il faut je ne dis pas que c'est contradictoire avec ce qui a été dit par vous tous, mais il ne faut pas l'interpréter en termes trop politiciens ou trop politiques. Il faut la prendre tripalement. Ces deux femmes qui, au total, ont réagi avec effectivement une violence proche par une certaine vulgarité, etc. Mais elles s'attendaient absolument pas à ce qui leur est tombé sur la tête. Elles sont dans une désespérance. Et elles, voilà, c'est une vidéo. Ces deux femmes, que par définition je ne connais pas, illustrent quelque chose qui doit rester dans nos têtes. Et surtout, dans les têtes de ceux, pour en tirer des conséquences, de ceux qui sont appelés à un titre ou à un autre à gouverner. Je dis notamment à Édouard Dorian,
je suis d'accord, qu'il a bien acquis.
C'est un symbole et un symptôme. On a le son de ce
qui se passe en partie.
Vous êtes là, vous êtes là, bande d'enculés, 54, 53, les gens sont rien compris, ils ont signé. Ça me dégoûte.
Ouais, non, très simplement, je crois que j'entends davantage. Je crois que c'est un symptôme et un symbole de qui se passe dans une partie du pays avec une partie des Français. Une exaspération très forte, vraiment une colère qui s'est exprimée. Mais vous savez, c'est un peu comme dans le football aussi ou dans un sport collectif, ce sont les réactions à chaud. Hein, dans les vestiaires.
Sauf que c'est leur vie juste et que après la défaite. C'est un peu différent.
Et ce que je veux dire, oui, mais parfois on joue aussi notre vie quand on est sportif sur un terrain de foot avec autant d'énergie, autant d'abnégation. Et là, c'est vrai, vous avez raison, c'est la politique, c'est la vie des gens, c'est beaucoup plus sérieux. Ce que je dis, je répète, c'est que c'est une réaction à chaud, il faut la prendre comme telle. Et j'entends surtout la demande de considération qui est cachée en dessous.
Oui, mais c'est pas ça qu'il faut répondre demain. C'est pas en traitant d'extrême, en disant qu'ils ont voté pour l'extrême droite que ça va arranger les choses.
Je distingue ce que représente politiquement Marine Le Pen de ce que souhaitent ses électeurs à travers son bulletin. Et je répète, objectivement, et vous vérifierez, et tous les auditeurs vérifieront, le camp nationaliste auquel appartient Madame Le Pen, c'est le camp de l'extrême droite et c'est insulter personne.
Mais
Edouard, quand on dit centre-gauche, centre-droite, ou extrême-gauche, c'est pas une insulte, c'est une qualification.
Et Jean-Luc Mélenchon est à gauche.
Oui, avec une gauche radicale, et notamment avec l'extrême-gauche qui surplombe sa vision politique.
Edouard, on va pas épiloguer. On connaît un peu les mécaniques politiques. On sait très bien que l'appel à l'extrême droite, c'est la seule manière de faire bouger les électeurs de gauche. Ouais. Donc, de toute façon, c'était une ficelle qui est connue, usée et réutilisée.
Moi, je sais ce que les maîtres français ont appris à l'école de la République et à l'université. Oui, bien sûr. Le camp nationaliste, c'est l'extrême droite.
Mais
c'est comme
si,
ça.
Justement,
on sait très bien. Moi, je montais à René Raymond qui n'était pas de gauche.
Oui, mais il faut lire autre. Il n'y a pas que René Raymond qui explique ce qu'est l'extrême droite. On va pas épiloguer là-dessus. Mais c'est vrai que vous vouliez parler de lendemain. J'ai quand même le sentiment que le risque principal, c'est qu'on oublie très vite le cauchemar et qu'on dise voilà, c'est fini, le RN a été au port du pouvoir, mais c'est terminé, et maintenant on reprend donc la vie comme d'habitude. J'en veux pour preuve quand même, et je ne sais pas pourquoi cette sortie a existé, ce qu'a dit hier Bruno Le Maire sur les médias en disant, mais bien évidemment pour la réforme des retraites, s'il le faut, le 49.3 sera réutilisé.
Tout le monde est fatigué, même les meilleurs ministres.
Alors là, vraiment, les bras m'en sont tombés parce que je me suis dit, au lendemain, quelques heures à peine après que le président de la République ait fait sa démonstration d'humilité et de dire je changerai la méthode, et bien voilà qu'un de ses principaux ministres, dès le lendemain, dit exactement le contraire.
Alors, apparemment, il a été un peu piégé par la journaliste qui lui dit oui, mais si ça ne passe pas, est-ce que vous pourriez aller jusqu'au 49.3? Et il dit, je ne peux pas l'exclure.
Mais pardon, ce n'est pas un piège, c'est une question.
C'est une question
à laquelle il a apporté sa réponse.
Il ne peut pas l'exclure.
Il peut aussi parfaitement dire que, justement, j'en sais rien ce qu'il peut dire parce que je ne suis pas son conseiller. Non. Mais toujours est-il qu'il a dit ce qu'il a dit.
Ouais.
Et de ce point de vue-là, c'est effectivement au moins une maladresse.
En fait, on résonne souvent en termes de représentation politique. On parle de pro-personnel en disant que la France insoumise ou le Rassemblement national doivent être davantage représentés à l'Assemblée nationale, mais il faut aussi réfléchir en termes sociaux. Le problème de l'Assemblée nationale, c'est qu'elle est très peu représentative socialement. Il y a très peu d'ouvriers, il y a trop peu de milieux populaires, et les revendications de ces dernières ne sont strictement pas représentées. C'est ça qui pose problème, même sur les plateaux de télévision. Vous voyez bien, moi, pour y aller beaucoup, on est davantage dans un entre-soi bourgeois, des gens qui vivent à Paris, qui habitent à Paris, en effet, qui ont des revenus assez importants, et ces gens ont l'impression de pas avoir la parole et qu'on ne s'intéresse pas à ceux qu'ils vivent. Et autre chose aussi, on a un côté beaucoup trop paternaliste vis-à-vis des milieux populaires. À chaque fois qu'ils revendiquent quelque chose, on leur donne un chèque, on leur donne une subvention en plus. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ces gens sont attachés au mérite. Ils veulent tout simplement vivre dignement du fruit de leur travail. Il faut aussi avoir une réflexion sur l'école de la République. Au moment des gilets jaunes, moi je suis revenu dans mes Ardennes natales, les gens ne voulaient pas de l'argent supplémentaire, voulaient en fait que l'école fonctionne à nouveau et que leurs enfants puissent faire mieux qu'eux. Et aujourd'hui, il y a l'impression finalement qu'on n'arrivera jamais à rien parce que l'ascenseur social est bloqué. C'est ça qu'il faut faire, démocratiser la politique et faire en sorte que les milieux populaires puissent encore avoir un espoir, l'espoir de l'ascension sociale. C'est ça la République.
Allez, petite pause et on continue dans un instant ce débat sur Sud Radio. Une nouvelle ère promet Emmanuel Macron, mais laquelle ?
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. débat.
Les débats avec vous, la suite. Effectivement, Emmanuel Macron promet une nouvelle ère. Alors écoutez, c'est Gilles Gansman qui nous l'a fait écouter dans le zapping. C'est Quotidien qui a fait un petit montage du discours d'Emmanuel Macron au Louvre et d'Emmanuel Macron à la Tour Eiffel. Écoutez.
Le décor a changé, Louvre d'un côté, Tour Eiffel de l'autre. Mais sur le fond, quand on compare les deux...
Cette confiance, elle m'oblige.
J'ai conscience que ce vote m'oblige.
Et j'en suis désormais le dépositaire.
Je suis dépositaire.
Ceux qui ont voté aujourd'hui pour Madame Le Pen.
Ceux qui ont voté pour Madame Le Pen.
Ne les sifflez pas.
Ne sifflez personne.
Ils ont exprimé aujourd'hui une colère.
Et de répondre avec efficacité aux colères qui se sont exprimées.
Voilà, il y a effectivement... Non, vous n'êtes pas convaincu
c'est normal, c'est parfaitement normal.
C'est normal qu'on répète la même chose et qu'on dise « je vais vous proposer, il n'y avait pas dans ces extrêmes et un nouveau projet, ensemble nous allons construire une nouvelle ère », ce qu'il avait dit également après le Covid. Hein.
Oui, bien sûr, mais on va se réinventer, moi le premier. Vous savez, j'ai compté, justement, pour mes divers travaux, il a dit, je pense, 5-6 fois durant le quinquennat, j'ai échoué à embarquer, j'ai échoué à convaincre, j'ai échoué à faire comprendre. Il a encore redit quelques semaines à la fin de la campagne, enfin, au début de la campagne à TF1, juste quelques semaines avant de dire j'ai envie d'emmerder les Français, les vaccinés, dont les non-vaccinés. Donc on sait que ce sont des paroles mécaniques où il faut tout simplement, au nom de la segmentation, dire ce que l'on veut entendre ce soir-là, mais qui, une fois de plus, après, n'ont peu de rapport avec la réalité des actes.
Oui, sauf que les Français le remarquent.
Une fois de plus, on verra bien. Mais d'abord, c'est très bien. Ça montre que, contrairement à ce que pense Marine Le Pen, Quotidien n'est pas uniquement une émission d'amuseurs. Premièrement. Et deuxièmement, ça montre aussi, et ça rend l'intérêt du quinquennat qui s'ouvre, que peut faire un président qui a les mains libres, qui n'est plus tenu par une réélection. C'est Est-ce qu'il va se contenter de faire ce parti unique et de bétonner l'héritage du macronisme comme on le pense, alors qu'il faut éviter une guerre civile entre 7 formations au sein de la majorité? Est-ce qu'il va effectivement changer la donne démocratique de manière à faire respirer le pays parce qu'il a vraiment compris la réalité des problèmes? Quelle empreinte va-t-il laisser? C'est les questions qui s'ouvrent maintenant devant nous.
Eduardo.
Je crois que dans des moments comme ça, très importants de la vie nationale, une élection présidentielle, la politique se réduit à peu de mots, à des mots simples, clairs et courts, précis. Parce que c'est une tradition française et dans ces moments-là, dans des moments comme ça décisifs, je crois effectivement que l'économie des mots fait l'importance des mots. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les discours. Qu'attend-on ?
Quel mot, Edouard ?
Rassemblement, je vous ai entendu.
C'était un peu la page dans le Figaro aussi, où on a l'impression qu'il avait mis tous les mots qu'il fallait. Je ne sais pas si vous qui aviez dit ça.
Je ne vais pas faire un commentaire de texte. On n'est pas à cet endroit-là où il faudrait faire un commentaire, une analyse de texte. Tout le monde a entendu le président. Et il n'y a pas que le discours. Maintenant, on attend les actes. Et le premier acte que va poser le président de la République, c'est de nommer un Premier ministre, ou une Première ministre. Et un gouvernement dans la foulée. Et je crois que voilà, il y aura le discours et les Français verront la traduction dans l'acte politique premier, qui est de nommer un premier ou une première ministre, un gouvernement qui va figurer déjà le sens de la politique que le président veut donner, qui sera déjà une première réponse au vote des Français. Et chacun pourra juger à ce moment-là. Et ce, d'autant plus que viendront les élections législatives des 12 et 19 juin, où les Français décideront de nouveau de la majorité qu'ils veulent. Et moi, je suis convaincu qu'ils donneront une majorité pour le président de la République. On n'a jamais vu les Français se déjuger à peine un mois.
C'est les projections qui ont été faites.
Il y a beaucoup de choses qui sont passées qu'on n'avait pas prévues.
En tout cas,
ni les sondeurs.
Le discours me paraît logique.
Il faut pas...
Et maintenant, l'acte que les Français pourront juger, la nomination du Premier ministre et du gouvernement.
Oui, projection Harris, majorité absolue LREM et alliés, 328 sièges à 368 sièges. LR n'en obtiendrait que 35 à 65. Le RN entre 75 et 105. On va parler de ce qui se passe chez les LR aussi. Mais
Je ne veux pas répéter ce qui a été dit. Je partage pour l'essentiel. Ce qui se passe là, c'est, me semble-t-il, c'est aussi, pas en premier, mais en second, l'avenir, s'il existe un avenir, du PS d'un côté et des LR de l'autre. Hein, ils sont chaos, ils sont vitrifiés, chaos debout, en tout cas,
On a déjà vu des formations politiques être KO debout et parvenir, sous certaines conditions qui ne sont pas aujourd'hui réunies, à se redresser. Mais là, c'est une question de vie ou de mort. Ouais. Et la recomposition qui s'annonce, la recomposition que le président réélu entend, compléter, conforter, accompagner, précéder éventuellement, elle passe par une clarification de la situation. Et pour le moment, au moment où on parle, les LR sont dans un état, politiquement parlant, alors que cette formation existe dans les têtes, aujourd'hui ouais. encore. Hein, ouais, ouais. Elle existe dans les têtes. Ils sont dans un état, mais cataclysmique. Ouais. Quant au PS, je sais pas, quand on a choisi de mettre un Hidalgo qui termine à moins de 2%.
Et Olivier Faure qui veut faire alliance.
La messe est dite.
Alors, hein. On a un auditeur qui attend, qui patiente, Olivier, qui nous appelle de Limoges. Bonjour, Olivier.
Oui, bonjour.
Quel commentaire vous vouliez faire?
Mais moi, je voulais faire deux commentaires. Un premier, c'est que on oublie que le peuple français vient de donner 42% des suffrages à Madame Le Pen, qui est un score historique, et qu'il va peut-être falloir penser à un moment arrêter de nous cracher à la figure.
Et on l'a dit,
parce que cette situation
raison.
Va finir en guerre civile. Quand on a un président de la République qui ne fait que insulter sa population et qui compte sur l'absentéisme. Et le fait de voter contre quelqu'un plutôt que de voter pour un programme, eh bien, ça ne pourra que très mal finir, cette affaire.
Il va déjà
avoir besoin d'éteindre les feux qu'il a lui-même allumés, puisque les gilets jaunes sont encore là dans les cœurs, et qu'il y a eu des milliers de gens qui se sont fait taper dessus par les forces de l'ordre, et notamment nos infirmières qu'on a extrêmement sollicitées, nos pompiers. Ces gens, le problème, il couvre encore.
Malgré les gilets jaunes.
Attends, oui. Donc vous avez voté pour qui, premier, deuxième tour?
Moi, j'ai voté Front National. Enfin,
Rassemblement
national.
Aux deux tours?
Oui.
Et vous connaissez des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron?
Oui.
Et qui l'ont fait de gaieté de cœur, par adhésion?
Non.
Ou pour...
Aucun. C'est sûr. Non, les trois quarts. Il suffisait de voir la documentation qu'on a eue pour le second tour d'Emmanuel Macron, c'était pas un programme. Mmh. Il était là pour dire il faut voter contre Marine. Il n'était même pas sur un discours où il présentait des solutions. Il était juste là pour dire il faut voter
mais
contre
vous,
Madame
vous
Le Pen.
Vous attendez quoi du président de la République? Il a été élu démocratiquement.
Rien. Absolument rien. Non, il ne représente personne.
Il représente des électeurs.
Non, ouais. Les trois quarts de la... Il représenterait des électeurs si les gens avaient voté pour son programme.
Oui, non, bon, ça, non, c'est des commentaires.
Alors,
je suis désolé.
Merci, Olivier, d'avoir appelé Kevin, puis après,
ouais,
Edouard.
Alors, moi, je comprends tout à fait ce témoignage. En fait, c'est la désespérance, c'est le désenchantement démocratique.
Ça, je suis d'accord.
Et les gens n'y croient plus. Alors, Emmanuel Macron est un génie. C'est-à-dire qu'en 2017, il a tué le Parti Socialiste et là, il a tué LR. Sauf qu'il a participé à déologiser, finalement, le spectre politique français pour remettre en place des clivages sociaux. Aujourd'hui, on a affaire au bloc bourgeois et de l'autre côté, au bloc populaire. Même la bonne bourgeoisie conservatrice, elle vote aujourd'hui Emmanuel Macron, alors qu'il est l'incarnation du progressisme. Et c'est ça qui est excessivement dangereux, de voir réapparaître finalement, de devoir remettre en avant une forme d'analyse marxiste, alors que je pensais que cela appartenait au passé. Et ça va très très mal finir, parce qu'à partir du moment où les gens se sentent méprisés, où les gens se sentent insultés, où les gens n'ont plus de dignité, au départ, ils sont dans la résignation, et progressivement, ils vont tomber dans une forme de révolte. Et les gilets jaunes que l'on a connus par le passé, ça risque de se démultiplier. C'est pour ça que Emmanuel Macron, qui est aujourd'hui le chef de l'État et qui est tout à fait légitime parce qu'il a été réélu, il faut qu'il prenne conscience de ça, qu'il démocratise sa politique et qu'il écoute la base. C'est ça qui est essentiel. Alors, aujourd'hui, sinon ça va péter.
Sur l'appel de notre auditeur, Dominique.
Ben, je le comprends, l'auditeur qui s'est exprimé il y a quelques instants... Je suis sûr que beaucoup d'autres qui l'écoutent ont le sentiment qu'il est de facto leur porte-parole. C'est un sentiment répandu.
Parlez bien dans le micro, Dominique. Ouais.
Ah oui, c'est un sentiment, c'est un sentiment répandu. Mais par rapport à ce que vient de dire Kevin Bossuet, je serais moins catégorique. Ça peut très mal. L'idée, c'est ça va, si ça continue comme ça, ça va très mal finir, etc. Si ça continue comme ça, alors c'est une hypothèse.
Mais ainsi est la France, avec ses complexités, ses contradictions, ses mouvements de passion dans un sens et dans un autre, et puis ainsi est la vie politique. Il n'est pas non plus complètement exclu qu'une recomposition laborieuse et douloureuse ait été enclenchée, en partie par Emmanuel Macron, et pas seulement depuis 8 jours, hein, et que tout ça débouche sur autre chose. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, je posais la question de savoir, PS, point d'interrogation, LR, point d'interrogation, c'est une question de vie ou de mort pour les deux. Hein. Et après, on verra ce qui va se passer. Je suis pas, voilà, sur le constat ponctuel, je serais assez d'accord, mais... C'est pas joué du tout.
Mais est-ce qu'un gouvernement,
c'est ce que nous vivons,
comme le disait Dominique,
l'accouchement douloureux d'une nouvelle donne.
Oui, mais comme le disait Édouard Dorin-Yossipel, le nouveau gouvernement va être une sorte de gage de « je vous ai compris ». Vous y croyez
Facialement. Après, il va falloir quand même mettre en place les projets posés par Emmanuel Macron. D'abord, la réforme des retraites, qui s'annonce difficile et douloureuse, même si c'est de 65 à 64 ans, ça reste exactement la même chose, parce qu'il y aura quand même le volet financier. On est loin de la réforme systémique prônée par la CFDT il y a maintenant très très longtemps. Ensuite, il va falloir enclencher la transition écologique, ça coûte également de l'argent. On est face à une nouvelle situation économique très compliquée, avec une flambée des prix qui s'annonce sur les matières premières, sur les produits alimentaires, liés et à la situation internationale, et à des situations sanitaires pour certains biens agricoles, et également face à une inflation. Il y a un quoi qu'il en coûte des matières premières qui est lancé, il y a la fin du quoi qu'il en coûte
la guerre aussi.
Sanitaire, ouais. Il y a la situation internationale. Globalement, on verra si effectivement, les choses changent vraiment. Mais pour qu'elles changent vraiment, ça voudra dire quoi? C'est-à-dire que toutes les décisions devraient arrêter de sortir d'un seul bureau. C'est quand même ce à quoi on a assisté pendant ces 5 années. On sait la logique de la 5e République, mais ce qu'on a vu, parce qu'il y avait aussi des circonstances, ont montré à quel point ça s'est considérablement concentré. Et le transfert de responsabilité massive sur une seule personne. Il y a eu des millions de personnes, des Français, qui ont attendu de la parole du président de la République pour savoir si on pouvait descendre dans la rue et acheter des biens de première nécessité pendant la crise. Donc il y a eu cette habitude-là et cette prise de conscience. Et aujourd'hui, il faut quand même redonner une capacité à tout cela de fonctionner de manière plus fluide, plutôt que cette hyper-concentration des projets et des décisions.
Ouais, 56% des Français souhaiteraient que le chef de l'État réélu perde le scrutin des législatives et soit mis dans une position de cohabitation. Édouard Dorin-Yossipel.
Oui, ça, ce n'est que... Vous savez, Emmanuel Macron a un gros défaut pour un homme politique, qui est en réalité une grande qualité, c'est qu'il dit ce qu'il fait, et il fait ce qu'il dit. Donc, si vous voulez voir clair sur ce qui va venir, il faut écouter ce qu'il a dit avant le second tour, et après le second tour, lors de son discours... au Champ de Mars.
Ça veut dire que quand il parle de
répondre aux aspirations sociales des gens, quand il dit qu'il va faire la planification énergétique d'un côté et la planification écologique d'un autre côté, tout ça dans un but de la stratégie d'indépendance de la France et de l'Europe, une stratégie donc d'autonomie stratégique qui est pour moi la grande tâche historique de ma génération, faire en sorte que nous soyons souverains au plan alimentaire, au plan industriel et commercial, au plan énergétique, sans lequel il n'y a pas d'indépendance par rapport au gaz et au pétrole de l'étranger. C'est une stratégie à l'esprit gaullien. Moi, je suis un gaulliste de gauche et j'ai rejoint Emmanuel Macron sur cette grande ligne du futur qui est l'autonomie stratégique, sans quoi nous serons des nains face à la Chine et face aux États-Unis.
Moi, je suis Madame Michu, je vais faire mes courses. Je suis en train de rogner sur certains produits parce que je ne peux pas finir mes fins de mois. Mon mari est allé à l'hôpital, il n'y avait pas d'urgence, il y avait 7h, 8h d'attente aux urgences. Je dis « je » qui symbolise les Français. Je veux dire, mon enfant ne peut pas aller à la crèche parce qu'il n'y a plus d'assistante maternelle, donc elle est fermée 3 jours par semaine.
On connaît tout ça.
Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans.
Emmanuel Macron est l'homme, président de la République, qui a diviser par deux les classes de CP dans les quartiers populaires. Il veut maintenant aller plus loin jusqu'au CM2.
C'est celui qui a
c'est partout dans les quartiers, dans les quartiers où c'est nécessaire et pas, et la campagne n'est pas en dehors de la France, elle sera traitée. C'est celui qui a revalorisé les retraites des agriculteurs, la mise à 1000 euros. C'est celui qui a revalorisé la prime d'activité, c'est qui fait des propositions concrètes pour le pouvoir d'achat. C'est un homme du concret.
Mais alors comment vous comprenez cette animosité
rassembler
qu'on a ?
Parce que c'est le résultat des années qui viennent et le vote du dimanche 10 et du dimanche 24 avril ne fait que reproduire, traduire dans le réel ce que nous avons vécu des divisions du pays.
Mais est-ce que votre vie a été améliorée depuis 5 ans ?
La vie de beaucoup de Français, elle a été améliorée. Pourquoi ils auraient réélu Emmanuel Macron mieux que la dernière fois au premier tour si c'était pire qu'avant ? Kevin. À un moment donné, il faut regarder les faits politiques et pas faire des commentaires.
Parce qu'il y avait Marine Le Pen en face.
Non. C'est là où je voulais en venir. Emmanuel Macron a résisté et a résisté seul. Est-ce que c'est la faute de Macron ?
Non.
Si le Parti Socialiste s'est effondré comme il s'est effondré,
seul.
Non. La vraie difficulté, c'est que les autres piliers de la République, la droite traditionnelle et la gauche traditionnelle, se sont effondrés. Ils sont restés sur des fausses réalités. Et c'est eux qui ne tiennent plus la barre. Et du coup, Emmanuel Macron est seul face à l'extrême droite et à l'extrême gauche. C'est eux qui ont échoué.
Vous trompez, mon cher Edouardo.
Si Macron avait échoué, il serait effondré. Il aurait été dégagé comme ses prédécesseurs. Ça n'a pas été le cas. Donc je dis simplement que nous avons besoin aussi des autres forces traditionnelles. Et ce n'est pas la faute de Macron, même si c'est des jeux politiques. Ce sont autodissous. Pardon, alors, à un moment donné,
attention,
aussi d'être clair sur la réalité
c'est
politique.
C'est l'heure de la pub. On se retrouve dans un instant.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Débat.
Avec vous jusqu'à midi pour les débats. Parlons des LR, puisqu'en ce moment, ça tangue, ça remue, ça bouge, ça explose. On en parle avec vous. Et écoutez ce que disait Gilles Platret ce matin. Il était l'invité du Grand Matin Sud Radio.
Moi, j'appelle simplement tout le monde, par respect pour les électeurs, parce que c'est ça qui compte, parce qu'on parle beaucoup de petits tripatouillages, et c'est normal, c'est d'actualité, mais par respect des électeurs, qu'on reste fidèle au combat qu'on a mené, qu'on n'aille pas manger dans la gamelle de l'adversaire. Bon. Ça, c'est quelque chose, vous savez, c'est ce qui nourrit le plus le rejet de la classe politique. Oui. Et ce que En Marche brandit comme des trophées de ralliement sont en fait des trahisons qui nourrissent la désespérance populaire. Donc, restons fidèles à ce que nous sommes. Peut-être qu'on perdra, mais il vaut mieux perdre dans l'honneur que de gagner avec la trahison.
Oui, il est maire de Chalon-sur-Saône, avec des prises de position à chaque fois assez remarquées. Donc lui, il fait partie de cette droite majoritaire apparemment, dont il y a Gilles Platret, Christian Jacob, François-Xavier Bellamy, Julien Aubert, Éric Ciotti. Et puis une autre partie qui dit, comme ce matin, j'entendais Franck Louvrier dire, le pays avant le parti, et qui est pour une collaboration avec la majorité présidentielle. Guillaume Larrivé, Jean-François Copé font partie de ce...
Damien Abad,
effectivement, hier,
très
qui
étonnant.
Est intervenu. Oui, Dominique.
Non,
un commentaire. Qu'est-ce qui va se passer chez les LR ? Alors, Michael Darmon l'évoquait tout à l'heure sur l'implosion des partis. Là, on a la preuve éclatante sous nos yeux.
D'abord, pour comprendre ce qui a été dit là, il y a quelques instants, c'est que Gilles Platret s'était fait l'avocat à l'époque où l'étoile d'Éric Zemmour montait au firmament, si je puis dire, ou en tout cas était pas loin, pouvait raisonnablement espérer ça, de se faire l'avocat d'un ralliement ou en tout cas d'un regroupement des zémouristes, des lepénistes voués à un second rôle à l'époque par Gilles Platret et éventuellement de gens de LR dont il aurait été l'un des avant-gardistes. Alors, quand il flingue là, il flingue. Ça va pas, il faut toujours mettre des petits décodages et c'est pas discutable, c'est un fait. Quand il flingue là, il flingue ceux qui, à LR, sont prêts, tel Franck Louvrier et d'autres, à rallier, sous certaines conditions, pas la corde au cou évidemment, mais à rallier Emmanuel Macron et à tirer les conséquences de la nouvelle donne. Ça illustre, alors bon, moi je ne suis pas la morale à qui que ce soit, et encore moins à quel titre à Gilles Platret, mais ce que je veux dire, cette intervention de Gilles Platret illustre la tension passionnelle qui règne au sein des LR, si c'est possible, et c'est pas sûr que ce soit possible, dans une opération survie, encore faudrait-il savoir pour qu'il y ait une opération survie, sur quelle base ? Et ils sont pas d'accord entre eux. Ouais. Non, Ça a déjà existé dans l'histoire de la droite française. Il y a des moments où il y a l'effondrement d'un parti, et puis progressivement et laborieusement, il y a la naissance d'autre chose.
Alors, objectivement parlant, moi j'ai trouvé que Valérie Pécresse avait le meilleur programme. Le problème, c'est que c'était très mal incarné, et le problème des Républicains, c'est qu'il y a un problème d'incarnation et de crédibilité. Un problème d'incarnation tout d'abord, parce que ces gens qui représentent ces idées-là, aujourd'hui finalement, ne sont plus en équation avec la société. Et on ne sait pas ce qu'ils pensent, ils ne sont pas d'accord entre eux. Quand vous prenez une Valérie Pécresse et un Éric Ciotti, ils ne sont absolument pas d'accord.
Il y a aussi,
le problème de la crédibilité, parce que eux ont été au pouvoir. Quand dans l'opposition ils tiennent un discours et que quand ils sont au pouvoir, ils font exactement le contraire, forcément ça choque. Regardez-vous sur le référendum sur l'Europe qui n'a pas été respecté, sur ce fameux Karcher. Moi qui suis en banlieue parisienne, on me demande souvent, mais où est passé le Karcher? Et cette incapacité à faire une place à la nouvelle génération et nous ressortir tous ces vieux entre guillemets schnock dont on se fout complètement, mais aujourd'hui ce parti est pas crédible, il est aspiré par la Macronie qui représente quelque chose de beaucoup plus jeune, de beaucoup plus moderne, et j'ai envie de dire tant pis pour eux, ils l'ont bien cherché.
Oui, Michael.
Le sous-texte aujourd'hui, c'est la rupture avec Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que Gilles Platret s'adresse à Nicolas Sarkozy. Il emploie à dessein le mot trahison. Il y a une frange très importante et de jeunes leaders et de vieux électeurs de LR qui ne comprennent pas et refusent l'attitude et rejettent l'attitude de Nicolas Sarkozy qui est resté toujours fidèle à ses intérêts et qui en fait en réalité a négocié depuis des mois, voire depuis le début du quinquennat, ce qui se passe aujourd'hui. Donc ce qui est intéressant, c'est que, et on le voit, il y a toute une nouvelle génération qui dit il faut tourner la page de cette espèce de nostalgie obligatoire et de révérence obligatoire aux locataires de la rue de Miromesnil, de manière à pouvoir vraiment être capable de pouvoir un jour être autre chose que ce que le LR devient avec le PS, c'est-à-dire un parti d'élus locaux. Parce qu'il faut quand même bien oublier que sur le territoire, et Dominique le disait à juste titre, LR existe encore. On le verra d'ailleurs très certainement aux élections législatives. Il y a des circonscriptions, il y a des territoires qui sont tenus à la fois par LR, à la fois par le PS, mais aujourd'hui, ils ne sont plus en capacité d'exprimer une quelconque, je dirais, pensée de manière à pouvoir être au pouvoir national.
Oui, dans les projections de Harris Interactive, le LR aurait entre 35 et 65 sièges contre 100 aujourd'hui. Oui. Édouard Dorian-Sipel.
Ce qui n'est pas déshonorant.
Non, ce qui n'est pas déshonorant.
Égard à leur situation.
Ce n'est pas des hauteurs quand même.
Mais le RN aurait entre 75 et 105 sièges. Oui.
Ce qui est normal, eu égard à leur situation.
On verra.
On verra, surtout.
Parce que les choses bougeront au plan politique et dans la dynamique.
Mais LR, vous, ça vous parle évidemment ce qui se passe chez LR, parce que ça ressemble un peu à ce qui s'est passé au PS.
Et franchement, moi, je ne m'en réjouis pas parce que c'est triste. Je pense bien sûr à ces militants et à ces dirigeants politiques parce que j'ai vécu ça avec le Parti Socialiste et donc je sais très bien ce qui va se passer au Parti LR. C'est-à-dire un effondrement général et la dissolution certaine. Et ce d'autant plus qu'ils ont réalisé, pas comme Benoît Hamon en 2017, 6%, c'est-à-dire au-dessus des 5%. Valérie Pécresse fait moins de 5%, donc elle n'a pas les capacités de rembourser d'être remboursé par l'État.
C'est assez poignant d'ailleurs cette histoire.
Et donc ça c'est difficile.
Quoi qu'on pense.
J'espère qu'elle s'en sortira parce qu'elle n'a pas à payer seule le prix de l'échec, qui est un échec collectif. Elle en a la responsabilité majeure. Je pense qu'elle a fait des erreurs stratégiques. J'ai appelé ça le pécressociotisme, c'est-à-dire ne pas être clair par rapport à Zemmour, d'abandonner son identité républicaine, son identité chiraquienne, qui est une identité qui est celle de la droite, l'esprit gaullien. Et donc la droite LR va être effondrée, dissoute, cassée au moins en trois morceaux.
Et le PS,
donc, une partie viendra,
vous venez,
bien entendu.
Parlez-nous un peu du PS aussi.
Quand on posera la question, cher Dominique.
Il n'existe plus.
Il existe.
J'en ai parlé tout à l'heure, mais quand on posera la question, j'essaye d'être bien éduqué et de répondre aux questions. Une partie viendra avec la majorité et le président, parce que précisément le président s'est posé dans une position et avec un esprit gaullien,
on verra
avec un projet de nature gaullienne, de dépassement politique. Le dépassement, ce ne sont pas des mots, ce n'est pas qu'un mot, c'est un esprit politique qui permet de rassembler dans une force centrale au cœur de la République,
ancré dans l'esprit français une majorité politique alors qu'il y a l'effondrement des forces traditionnelles. C'est ça Emmanuel Macron. Et j'espère bien qu'il va réussir, il a le devoir de réussir et il faut l'aider.
Oui, lui, il va surtout penser à la façon dont il va organiser effectivement son héritage politique, ça c'est vrai aussi. Beaucoup de LR étaient tentés, on le disait très régulièrement, par le passage en Macronie après les élections. La question c'est aujourd'hui qu'il se pose, hein, tel que je l'entends depuis dimanche soir, c'est qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? Il y a déjà pléthore de monde. Il y a surtout maintenant un regard plutôt tourné vers la gauche et au fond ils n'ont aucun rapport de force et c'est au fond ce que les LR vont aujourd'hui trancher très certainement, c'est l'importance ou la réussite de cette opération Moïse là, qu'a lancé Nicolas Sarkozy en disant il y a 30-40 députés qu'il faut sauver et qui doivent passer en Macronie. Est-ce qu'ils vont vraiment y aller et quelle est la réalité de leur utilité?
Oui, absolument. C'est fini, mais vous reviendrez, on vous réinvitera, évidemment. Merci à vous, merci à tous les quatre. Merci. Dans un instant, André Bercoff, très bonne journée sur Sud Radio.